passe de la vie,
Dieu propose
un nouvel horizon. Et c'est la pensée qu'on va développer bien sûr ensemble quelques instants, parce que finalement je crois qu'on sait tous ce qu'est une impasse. On a tous peut-être une expérience un jour, en voiture, en camion, etc., où on s'est retrouvé dans une impasse, et il a fallu faire une manœuvre ou reculer. Je me rappelle, lors d'un autre séjour en Angleterre, on a l'habitude en vacances de partir avec une caravane, et bien sûr, on avait mis un GPS avec une route. Sauf que le GPS, des fois, il se trompe. Il nous amène dans des petits chemins. Et là, en Angleterre, on s'est retrouvé, alors en pleine ville, dans une impasse. C'était une rue. Alors, j'ai peut-être pas mal vu les panneaux, etc. Il y avait une rue, et à un moment donné, il y avait des maisons, puis il y avait un mur. Ils avaient carrément construit un mur. La route s'arrêtait, et là, on était dans l'impasse. Alors, en Angleterre, on roule à gauche, j'avais la caravane. Je n'explique pas comment. Il a fallu dételer la caravane, faire une manœuvre avec la voiture. Tout le monde était au balcon, puis regardait. Le Frenchie qui se plante, et puis qui sort de cette impasse comme il peut. Mais voilà. En tout cas, une impasse, c'est une rue sans issue. C'est une voie sans issue. Et on pourrait tous venir ici ce matin pour dire, eh bien, c'est vrai que dans nos vies, dans ma vie, il y a eu des moments où il y a eu des impasses. Il y a peut-être aussi une impasse aujourd'hui dans ma propre vie. C'est peut-être dans le domaine familial. C'est peut-être dans le domaine financier. C'est peut-être dans le domaine médical, professionnel, personnel, voire spirituel, peu importe, mais on se retrouve dans une impasse. Et malgré les conseils, malgré nos efforts, malgré notre bonne volonté, eh bien, on demeure dans une voie sans issue. On demeure dans une voie sans issue. Alors, il y a quelques textes de la Bible ce matin qui vont nous aider à comprendre comment Dieu, justement, peut nous donner un nouvel horizon. On va partager une déclaration, on verra un court récit, et puis on terminera par une vérité. Voilà, une déclaration, un récit, et puis une vérité. La déclaration, vous l'avez là aussi sur les flyers, je la reprends. Alors c'est un homme dans l'Ancien Testament qui a vécu il y a quelques centaines d'années. Il s'appelle Jérémie. Jérémie, et il est déporté dans une autre ville, dans un autre pays, avec une autre langue, avec d'autres cultures. Et bien sûr, il est comme dans une impasse. C'est difficile. Et pourtant, Dieu va dire à Jérémie et à son peuple, à ce moment-là, cette parole qui était écrite sur ce flyer, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh, quelle parole, de vous donner un avenir et de l'espérance. Et on peut retenir ces deux mots, aujourd'hui, avenir et puis espérance. Parce que ce n'est pas toujours le cas dans notre monde. On entend d'autres mots, on entend d'autres propos. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a des scientifiques qui se sont réunis et qui se sont dit, finalement, on va créer une horloge virtuelle, appelée l'horloge de la fin du monde, ou appelée l'horloge de l'apocalypse. C'est très réjouissant, Et le but de ces scientifiques, c'est de prévenir un petit peu l'humanité d'une catastrophe qui pourrait l'anéantir. Ça peut être l'holocauste nucléaire, ça peut être une guerre mondiale, ça peut être une épidémie, ça peut être des famines, etc. Voilà, tous ces paramètres sont inclus dans cette drôle de machine. Et puis le minuit, pour symboliser, le minuit c'est la fin du monde. Et alors les horloges, l'horloge tourne, etc. Et là, le 27 janvier 2026, on n'est jamais aussi près du minuit. À cette horloge, il est 23h58min35s. Là, si vous êtes fort en maths, vous faites le calcul pour nous dire avant la fin de la réunion, il reste combien de secondes, Mais 23h58min, et ça, ce n'est simplement qu'en fonction des données un petit peu que les hommes, les scientifiques peuvent réunir. On est dans une société anxiogène, et nos vies sont aussi anxiogènes. Et puis, il y a un slogan aussi que vous connaissez peut-être, que vous avez porté quand vous étiez plus jeune. En tout cas, ça a été porté par une partie de la jeunesse anglaise. Dans les années 70-80, On voyait ces jeunes un petit peu étonnants, ils avaient des crêtes, ils étaient un peu rasés, etc. C'est le mouvement punk, le mouvement punk. Hein? Et le mouvement punk, ils avaient un slogan. Alors, est-ce que quelqu'un maîtrise l'anglais? C'était « no future ». Voilà, hein? « No future », pas de futur, pas d'avenir, pas d'espérance. Voilà ce mouvement, hein? Peut-être que vous l'avez connu, etc., ou que vous vous êtes battu contre parce qu'il y avait les punks, les anti-punks, etc. Mais, et puis on pourrait multiplier les exemples hein, ce matin de toutes ces réalités où le mot « espérance » et « avenir » ont été mis de côté de notre société. En tout cas, il y a une déclaration déjà que nous pouvons prendre pour nous ce matin, que Jésus également nous adresse, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour chacun d'entre nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Quelle déclaration ce matin, pour notre monde, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et puis, on va lire un court récit. Alors c'est dans Luc 13, 10, 13, pour le projectionniste. Je fais toujours un concours avec lui, je ne lis pas le texte, comme ça je suis toujours le premier à le lire avant lui. Hein. Luc 13, voilà, vous allez voir, verset 10, il est dit ceci. « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole » et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, et immédiatement, elle se redressa, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Alors, c'est vraiment un tout petit récit. Hein. Il n'y a peut-être pas plus petit comme récit, mais quel bouleversement pour la vie de cette femme. Juste quelques minutes pour un bouleversement total, pour un avenir, pour une espérance glorieuse pour elle. Alors, où est cette femme d'abord? Où est cette femme? Où elle se trouve? Eh bien, on apprend qu'elle se trouve dans une synagogue. Hein, c'est le lieu de prière pour les Juifs, où on écoute la parole de Dieu, où on partage la parole de Dieu, où on prie également. C'est dans ce lieu que se trouve cette femme. Alors, est-ce qu'elle y va régulièrement? Est-ce qu'elle a été invitée par un flyer en disant, voilà, Jésus est là aujourd'hui, hein, dans la synagogue, venez, etc. Bon, est-ce qu'elle y va seulement parce qu'elle a entendu parler de que Jésus était dans la synagogue? Bon, le texte ne le dit pas, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'elle se trouve au moment où Jésus est là. Ce qui est important, c'est qu'elle se trouve au moment où la présence de Jésus est manifeste. Et ça va être le point de départ pour elle d'une vie extraordinaire, d'une nouvelle vie. Et c'est ce que chacun d'entre nous, peut-être ce matin, certainement aspire, quand nous sommes dans une impasse, c'est que quelque chose se passe pour s'en sortir, que quelque chose se produise pour qu'on se sorte de cette impasse. Eh bien, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » L'essentiel ce matin, pour nous, comme cette femme, c'est de se trouver dans la présence de Jésus. Et j'oserais dire que le lieu importe peu, que ce soit dans une église, que ce soit en forêt, que ce soit dans son appartement, que ce soit au travail, peu importe, Jésus est là. Et quand on réalise sa présence, quand on est conscient qu'on est dans sa présence, comme pour cette femme, eh bien quelque chose peut se passer, et ainsi eh bien Jésus peut intervenir dans sa vie. Quel est son problème ? À cette femme, hein. On l'a lu ensemble, j'oserais dire, il est triplement invalidant. Triplement invalidant. Pourquoi je dis ça? D'abord, il dit qu'il y a un esprit qui la rend infirme. Alors, c'est peut-être une déclaration qui nous fait sourire aujourd'hui, hein, ça nous surprend, mais qui nous rappelle malgré tout qu'il y a des maladies, il y a des infirmités, il y a des troubles qui sont causés par des mauvais esprits. C'est une réalité. Que le monde y croit ou pas, que nos médecins y croient ou pas, c'est une réalité. Il y a ces réalités aussi spirituelles causées par des mauvais esprits. Et le malheur pour cette femme, c'est qu'aucun remède, aucun traitement ne peut la soulager. Il faudra une action spirituelle de la part de Jésus. Il faudra que Jésus intervienne de cette manière pour la délivrer, pour la libérer. Et Jésus nous rappelle quand même ce matin que, eh bien, il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Et puis, c'est une infirmité qui dure quand même depuis 18 ans. 18 ans. 18 ans. Je crois qu'il y a des jeunes, peut-être, qui ont à peu près 18 ans, 17 ans. Hein. Imaginez pour ces jeunes que depuis la naissance, eh bien, ils vivent cette infirmité. Pour nous, c'est comme si depuis 2008, j'ai fait le calcul, hein, depuis 2008, eh bien, on souffrait de quelque chose qui nous maintient. 2008, est-ce que vous vous rappelez l'événement mondial qui s'est passé en 2008 ? Ah, exactement, il y a une bonne crise financière, hein, ça, une réalité. Et puis il y a eu aussi les JO, les Jeux Olympiques. Et ils étaient où les Jeux Olympiques en 2008 ? Ah ? Non ? Pékin, exactement, Pékin. Bon, j'ai regardé, on n'a pas eu beaucoup de médailles d'or. Hein. Bon, ça c'est... Donc j'ai arrêté là. Mais voilà, depuis les Jeux de Pékin, depuis la crise financière 2008, eh bien, c'est comme si désormais, eh bien, nous étions 18 ans. 18 ans. Alors au début, elle se dit, ça va passer. J'ai fait un faux mouvement. Il y a un lumbago. Hein, je vais demander peut-être à ma mère de venir me masser, etc. Ça va passer, ça va s'arranger. Quelques jours de repos vont suffire, etc., etc. Et puis, plus les jours passent, plus les semaines passent, eh bien, finalement, rien ne se produit. Elle consulte peut-être des médecins aussi, etc., etc. Mais rien n'y fait. 18 ans. 18 ans. Et vous savez, quand on est comme ça, c'est peut-être votre cas, et ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Quand la maladie perdure, quand nos impasses perdurent, qu'est-ce qu'on se dit ? Eh bien, on se résigne. On se dit, bah, de toute façon, je resterai ainsi, comme ça, toute ma vie. Voilà, je suis dans l'impasse, je suis condamné à vivre ainsi le restant de mes jours. C'est ce qu'a dû se dire cette femme à un moment donné, eh bien, je ne peux rien y faire, j'ai tout essayé. Et cette femme, bien sûr, elle est résignée. Et c'est peut-être ce matin votre réalité, votre état d'esprit, vous êtes résigné et vous êtes convaincu que jamais vous ne sortirez de votre impasse. C'est comme ça. Vous avez essayé, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais rien ne peut changer. Rien ne peut plus changer. Vous êtes dans l'impasse. Il y a une bonne nouvelle, il y a une parole de Dieu qui dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis la troisième chose, c'est que elle est courbée, mais elle ne peut absolument pas se redresser. On l'a lu ensemble. Hein. Elle ne pouvait absolument pas se redresser. Cette remarque, elle est quand même terrible, parce qu'elle fige définitivement cette femme dans une posture difforme. Ce n'est pas une posture normale d'être toujours courbée. C'est anormal. Et on imagine son quotidien. Nous, on lit le texte comme ça en 3 minutes. Hein, pour se lever, pour se laver, pour s'habiller, pour se nourrir, pour se déplacer, pour se reposer. Je ne sais pas comment elle faisait. On imagine qu'elle devait avoir des douleurs constantes, lancinantes, jour et nuit, etc. Enfin, oui, sa vie est un enfer. Sa vie est un enfer. Et puis le plus dramatique, bien sûr, c'est que sa vision est complètement déformée. Elle ne peut pas se redresser. Elle ne voit pas normalement, son champ de vision, il est rétréci. Et puis, bien, sa démarche est certainement mal assurée. Elle a du mal à marcher. Et puis, je ne vous parle pas des regards que l'on porte sur elle. Alors, il y a des regards parfois condescendants. Hein, et puis, parfois, il y a d'autres types de regards qui sont plus bien dans la malveillance, etc. Et tout cela eh bien, fait de sa vie un véritable enfer. Elle est considérée comme infirme, handicapée, et ça touche son identité, ça touche sa personnalité. Elle se sent diminuée. À quoi est-ce que je sers ? À quoi est-ce que je sers ? À quoi bon vivre ? Quel est le sens de ma vie ? Si c'est pour vivre comme ça, dans cette impasse de souffrance, d'infirmité, ça ne sert à rien. Et je pense que cette femme a dû avoir aussi ce genre de réflexion. Ce sont des questions que l'on se pose, que l'on peut se poser quand nous sommes dans l'impasse. Sans espérance, sans avenir. Hein, j'avais un enfant de temps en temps, c'était sa période ado. Mais toi, papa, à quoi tu sers dans ta vie, hein ? Tu sers à quoi dans ta vie, hein ? Voilà, c'était l'ado qui se rebellait. Maintenant, ça va mieux. Mais bon, à un moment donné, c'était ça. Mais papa, tu sers à quoi dans ta vie, hein ? Voilà, bon. Et eh bien, Jésus va répondre. Jésus va répondre à ces questions. Parce que, et pour tous ceux qui, ce matin, peut-être se les posent, mais à quoi je sers ? Ça sert à quoi, etc. Qu'est-ce que va faire Jésus ? Qu'est-ce que va faire Jésus ? Eh bien, le texte nous dit « Jésus va la voir ». On me dit « Bon, bah oui, bah il va la voir, d'accord, hein, comme je vous vois ce matin, etc. Je vous vois, vous êtes là. » Non, 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 c'est pas une phrase anodine. Nous sommes dans une synagogue. Imaginez ce matin qu'on soit dans une synagogue. Alors, il y a une séparation d'abord. Hein. Alors, en général, ce sont les hommes qui sont devant. Et puis, quelque part, dans les synagogues les plus modernes, les dames sont au fond. Voilà. Et puis, oui, les dames sont au fond, je suis désolé. Hein. Et dans d'autres synagogues, il y a comme un mur, parfois ajouré, et les dames sont derrière. Elles écoutent. Il y a quand même la prière, à l'époque, du juif religieux pieux, qui disait ceci trois fois par jour, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis... » Alors, vous ne les mettrez dans l'ordre, hein, ni un chien, ni une femme, ni un samaritain, ou une samaritaine, voilà. Alors, vous voyez un petit peu. Et quand on reprend le contexte de l'époque, on se dit, non seulement Jésus la voit en tant qu'auditrice, parce que même si elle est derrière un mur ajouré, eh bien, il la voit de cette manière, mais beaucoup plus que cela, bien sûr, eh bien, il la voit comme une personne à part entière, comme une personne qui souffre, qui a besoin de sa grâce, comme une personne qui a autant de valeur que tous les hommes qui sont devant et qui l'écoutent religieusement. Oui, Jésus la voit. Mais il la voit de cette manière. Et s'il est vrai que parfois, à cause de ces moments d'impasse que nous vivons, on peut se dévaloriser, on peut se dire, mais de toute façon, c'est de ma faute, je ne sers à rien, je ne peux pas m'en sortir, je suis dans cette impasse, etc., je suis nul. Eh bien, Jésus a un autre regard sur nous. Jésus a un autre regard sur nous. Il nous voit d'une autre manière, heureusement. Et heureusement, David, un jour, va réaliser la manière dont Dieu le voit, la manière dont Dieu a veillé sur sa conception dans le ventre maternel, etc., avant que l'échographie arrive, hein, David nous dévoile ces choses dans le psaume 139, et suite à tout ce que Dieu a fait de merveilleux, il dira ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Une créature si merveilleuse. Voilà comment David, à ce moment-là, comprend la manière dont Dieu le voit, et il se réjouit, il se réjouit. Et ce matin, bien, il y a une bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus nous voit, non pas nous comme on se voit, non pas comme les autres nous voient, malgré nos faiblesses, avec nos handicaps, avec nos impasses, etc., mais il nous voit parce qu'il nous aime. Et il y a plusieurs fois dans l'Écriture, il est rappelé que le regard de Jésus, il était rempli de compassion. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Jésus, voyant cette femme, fut ému de compassion. Et en nous voyant, nous regardant ce matin, bien, Jésus est ému de compassion. Amen. Il est ému de compassion. Un mot clé qu'on peut retenir ce matin pour nous, le regard de Jésus est rempli de compassion. Et pour cette femme, c'est un point de départ extraordinaire. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Peut-être que cette femme, à ce moment-là, se rappelle ce verset de l'Ancien Testament. Peut-être qu'il a été lu, j'en sais rien. On est dans la synagogue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des projets, non pas de malheur, mais de paix, d'avenir et d'espérance. Jésus nous voit ce matin dans nos égarements, dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos échecs, et il n'y est pas insensible. Il n'y est pas insensible. Et puis ensuite, non seulement Jésus la voit, mais Jésus lui parle. Waouh ! Parler à une femme dans une synagogue. Alors là, écoutez, là, on atteint déjà un summum. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, surtout dans ce cadre-là. Et pourtant, Jésus va lui parler et il va lui dire, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ça, c'est une parole d'autorité, une parole d'origine divine, une parole de compassion, parce que seul Jésus a le pouvoir de délivrer cette femme de ses mauvais esprits. On l'a dit tout à l'heure, c'est un mauvais esprit. Et il faut une réponse spirituelle. C'est pas un remède, c'est pas un onguent qui pourra libérer cette femme. C'est une parole de Dieu, une parole d'autorité. Et seul Jésus, à ce moment-là, est capable de la donner. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Moi, j'aime bien, là aussi, une parole, je vous la relis dans Luc 4, verset 18-19. Jésus est encore dans une synagogue. Et puis, à un moment donné, eh bien, il va faire la lecture. Ça se faisait de temps en temps. On invitait un homme à venir faire la lecture de la Torah. Et voilà ce qu'il va lire, il va dérouler, allez, à l'époque hein, c'est des rouleaux, c'est pas encore sur les tablettes et encore sur le papier, et voilà ce que Jésus va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Et ainsi, bien, Jésus, à travers ce texte, nous rappelle son autorité, sa parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et puis, le mot « infirmité » ici est particulier parce qu'il a donné en français le mot « asthénie ».« Tu es délivrée de ton asthénie ». L'asthénie, j'ai regardé parce que je suis pas docteur, je suis pas médecin, mais c'est une fatigue anormale qui provoque la sensation désagréable, pénible, d'être incapable de mener à bien des activités quotidiennes. L'asthénie ne disparaît pas avec le repos. Vous avez beau dormir 24 heures sur 24, c'est pas ça qui va redonner de la force. Et on pourrait l'associer bien aujourd'hui à une fatigue psychologique, à une fatigue morale. On parle, vous savez, de plus en plus de stress, de dépression, de burn-out. Ce sont des... Hein ? Eh oui, dépression, ce sont toutes des réalités. Exactement.
Hein, des... C'est comme une dépression latente, on se met, c'est pas une vraie, mais voilà.
Et voilà. Et un jour, on veut se lever le matin, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est fini. Hein, tout est rideau, etc. Et en 2025, vous le savez, hein, ça a été la grande cause nationale, là aussi, en métropole et ailleurs, la santé mentale, notre santé mentale. Jésus a dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués psychologiquement, spirituellement, physiquement, moralement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et je vous donnerai du repos. Et puis Jésus continue, il va poser sa main sur elle. C'est encore un geste qui exprime sa compassion, son amour. On ne touche pas non plus une femme. Jésus outrepasse les codes de la bienséance. Il parle, il touche cette femme, etc. Parce que pour certains, elle peut être considérée comme impure, elle peut être même considérée comme maudite. Si elle est infirme comme cela, c'est que certainement bien Dieu l'a oubliée. Et quand on touchait quelqu'un à l'époque qui était impur, on devenait impur soi-même. Il y avait une transmission. Et Jésus touche cette femme. Jésus touche cette femme. Mais il y a un sentiment que nous pouvons aussi nous-mêmes vivre lorsque nous sommes dans l'impasse. Où est Dieu ? Que fait-il pour moi ? Existe-t-il ? Existe-t-il vraiment ? Et toutes ces questions, ben, elles vont s'effacer lorsque Jésus va poser sa main sur nous. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un là qui m'expliquait qu'il a vécu à un moment donné une situation particulière. Il était démoralisé. Là aussi, bien, bon, il avait exprimé, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ça m'arrive ? Etc. Et là, bien, là où il est, il a prié. Il a prié. Je te demande pardon parce que c'est vrai, je pensais que tu m'as oublié, mais voilà, mais Seigneur, viens m'aider. Et là, il me dit que là où il était, bien, il a ressenti la chaleur, la présence de Jésus. Il y a quelque chose qui l'a rempli en un instant, l'amour, la chaleur de Jésus. Et il m'a dit, ben, oui, c'est comme si Dieu m'avait touché. Ben, je dis, oui. La bonne main de Jésus était sur toi à ce moment-là. La bonne main de Jésus était sur toi. Et quand la main de Dieu, la main de Jésus est sur nous, alors nos vies peuvent être transformées, nos vies peuvent être changées. Il y a un avenir, il y a de l'espérance pour chacun. Quelle transformation ! Hein, quel avenir désormais pour elle ? Elle va reprendre une vie normale. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de regard suspicieux, voire condescendant. Plus d'incapacité pour travailler, plus d'incapacité pour se déplacer. Elle est totalement libre parce que Jésus l'a libérée. Amen. Jésus l'a libérée. Et ce matin, bien, cette parole de prophète Jérémie, elle va retrouver de l'espérance, un avenir. Eh bien, c'est une parole aussi que Jésus veut nous donner. Dans nos impasses, dans nos problèmes, eh bien, de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je conclue, parce qu'ici, bien sûr, eh bien, c'est un avenir et une espérance bien, qui va durer toute sa vie terrestre. Mais il y a encore bien plus. Il y a encore quelque chose de beaucoup plus extraordinaire pour nous. Beaucoup plus incroyable pour nous. Non seulement Jésus veut nous donner un avenir, une espérance terrestre, Mais il veut également nous donner un avenir et une espérance céleste dans le ciel. Dans le ciel. Et laissez-moi vous en parler juste quelques instants pour conclure avec une réflexion que Jésus nous propose. Peut-être que cela, on pourrait la mettre sur le vidéo. C'est la vérité. On a parlé d'une proclamation, on a parlé d'un petit récit. Et ici, il y a une dernière pensée, c'est une vérité, c'est Matthieu 16, 26. C'est Jésus qui nous interpelle par une réflexion. Et ça peut nous aider ce matin, à réfléchir par rapport à l'éternité. Si tu l'as, Matthieu 16, 26. Et Jésus va dire ceci, et ça peut être le sujet d'un bac philo ou français, je ne sais pas. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela servirait-il qu'il perde sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Ça, c'est une traduction. J'en ai une autre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Que pourrait donner un homme en échange de son âme ? Ouais, c'est une réflexion quand même que Jésus nous invite à faire. Elle m'a marqué, moi aussi, quand j'étais plus jeune, cette réflexion. En tout cas, Jésus nous rappelle plusieurs vérités dans ce texte. D'abord, on n'est pas simplement constitué d'os, de nerfs et de muscles. Vous vous rendez compte, On n'a pas simplement de la chair, etc. Mais, Jésus nous dit qu'on a une âme, on a un esprit, on a une personnalité, on a une identité, ce que nous sommes à l'intérieur, etc., etc. Et donc, il y a en nous, bien sûr, une dimension physique, mais une dimension morale, intellectuelle, psychologique, spirituelle. On est tout ça. Le soir, quand vous allez vous coucher, vous ne dites pas « Bon, je mets mon corps dans le lit, je mets mon âme dans le tiroir de la table de chevet, je mets mon esprit ici, mon intellectualisme, je le mets là, si j'en ai encore un petit peu, mes neurones, je les mets là. » Non, on se couche en entier, et on se lève aussi, bien sûr, comme ça. Et Jésus nous dit que nous avons aussi cette réalité spirituelle. Il nous dit aussi que, finalement, quand il nous parle de l'âme, il nous parle de l'éternité. Il l'associe à l'éternité. Perdre son âme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vivre dans l'éternité, éloigné de Dieu, de Jésus-Christ, pour toujours, pour toute l'éternité. Entre parenthèses, en compagnie, par exemple, des mauvais esprits qui retenaient, liaient cette femme. Et personnellement, ce n'est pas une compagnie que je vais apprécier dans l'éternité, croyez-moi. Je préfère être dans la présence de Jésus que dans la présence de ces mauvais esprits. Mais c'est une réalité, notre âme est associée à l'éternité. Et puis la dernière pensée, c'est que Jésus nous propose également de nous donner un avenir et de l'espérance dans l'éternité. Non seulement sur cette terre, mais surtout dans l'éternité. Un cantique nous dit, je ne sais pas si vous le connaissez, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Vivre avec... Est-ce que vous avez déjà réfléchi, est-ce que vous avez une assurance sur l'éternité ? Voyez vos contrats d'assurance. Allez demain dans... J'aimerais voir un contrat d'assurance sur l'éternité. Ah bon ? Ils vont vous regarder comme ça. Non, n'y allez pas parce qu'ils vont appeler les services spécialisés, etc. Mais non, il n'y a que Jésus qui puisse nous donner une assurance concernant l'éternité. L'éternité. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ? Alors, d'être riche, d'être en bonne santé, allez, on y va. Et puis comme moi, dans ma pensée, de mourir à 80, 90 ans, 100 ans, en bonne santé, etc. S'il ratait son éternité. Quelqu'un dit un jour avec humour, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Au début, à la fin, au milieu, oui, c'est long, c'est l'éternité. Alors comment être assuré d'avoir un trésor dans le ciel, de posséder cette espérance, cet avenir éternel ce matin ? La Bible est claire et on va terminer. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh ! Si on s'arrête là, c'est pas l'espérance, c'est l'avenir. Mais, il y a un mais. Il est dit ceci, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Waouh ! Si on s'arrête là, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Mais, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis Jésus dira très simplement, repentez-vous et puis croyez à la bonne nouvelle. Et je vous donne un trésor dans le ciel. Je vous assure l'éternité. Je vous assure cette espérance, cet avenir éternel. Jésus nous invite à nous repentir, à reconnaître que nous sommes des pécheurs, à accepter son pardon qu'il a acquis pour nous à la croix. Voilà notre espérance, notre avenir. Et ainsi, nous recevrons en retour notre espérance et notre avenir éternel. Alors oui, ce matin, face aux impasses de la vie, Dieu propose un nouvel horizon. Sur le flyer distribué, voilà, bon, peut-être que vous êtes trop loin, hein, mais ce flyer montre une personne, voilà, qui a gravi un sommet, elle a fait un effort, ça peut-être vous est déjà arrivé, hein, si vous êtes un marcheur, d'aller voir un lever de soleil, ou un coucher de soleil, hein. Et parfois, ben, faut escalader un petit peu, faut prendre un chemin, et puis là, d'avoir un panorama. Et là, on voit une personne, eh bien, qui après avoir fait un effort pour monter sur un sommet, peut-être qu'elle a attendu quelques heures, je ne sais pas en tout cas, eh bien, elle veut admirer le soleil levant. Voilà, cette personne, hein. Et vous la voyez peut-être, mais manifestement, eh bien, pour elle, c'est un moment d'émerveillement. Elle est comme ça. C'est un moment de joie. C'est un moment de sérénité. Parce que elle distingue le soleil levant au-dessus des montagnes. C'est un panorama extraordinaire. Elle est là, calme. Il y a peut-être quelques oiseaux qui sont montés en altitude pour l'accompagner. Je ne sais pas. Mais c'est un moment émerveillement. Elle voit le soleil qui va venir. Et moi, ça m'a fait penser à un verset de la Bible. C'est dans Malachie 4:2 qui nous dit ceci. Mais pour vous qui craignez son nom. Mais pour vous qui lui faites confiance. Mais pour vous qui placez votre foi en Jésus-Christ pour l'espérance et l'avenir éternel, eh bien, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est une image. Et la guérison va l'accompagner. Et la guérison physique, spirituelle, psychologique, morale, eh bien, sera sous ses ailes. Et notre prière ce matin, c'est qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. D'avoir un face-à-face avec Jésus, le soleil de justice qui se lève dans nos vies, et que cette guérison dont cette femme a bénéficié soit aussi également la nôtre pour, dans tous les domaines de notre souffrance, notre résistance. Si nous sommes dans une impasse ce matin, eh bien Jésus veut nous en sortir. Amen. Il a toute autorité, tout pouvoir. Et je propose quelques instants bien d'incliner nos têtes, de fermer peut-être nos yeux si vous le souhaitez, et on va prier. On va prier Jésus afin qu'il nous aide et on permettra ce matin, si certains ont besoin, eh bien, qu'on puisse prier de manière peut-être plus particulière pour eux, de venir sur le devant. Et pendant que les musiciens pourront chanter des cantiques aussi qui ont été prévus, eh bien, on pourra prier simplement avec vous, pour vous, afin que Dieu vous montre qu'il est capable et qu'il veut vous sortir de vos impasses. Amen.